Ce matin, je vous invite à trouver un passage dans Apocalypse. Beaucoup plus facile à trouver qu'un des petits prophètes. Vous commencez à l'arrière et vous y êtes très rapidement. Donc, Apocalypse, chapitre 11. Apocalypse chapitre 11, les versets 15 à 17. Donc, on est dans toutes ces visions que l'apôtre Jean reçoit concernant la fin de l'histoire de notre monde et toutes les visions des réalités spirituelles qui sont en train de se produire autour de notre monde. Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône tombèrent face contre terre. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » Alors, l'apôtre Jean, bien évidemment, n'était pas le seul auteur biblique à recevoir une révélation concernant la fin de l'histoire. Il y a le prophète Daniel aussi, dans l'Ancien Testament déjà, qui avait reçu une vision de ce qui allait se produire. On peut le lire dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 13. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité sur toutes ces choses. Il me répondit et m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alléluia. Verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Donc, pour ceux qui ont déjà suivi l'étude biblique dans Ésaïe, on a vu à plusieurs reprises aussi dans le livre d'Ésaïe que la Bible nous dit que le Messie, le serviteur, donc, que nous connaissons grâce au Nouveau Testament sous le nom de Jésus, va revenir sur la terre et qu'il va régner sur toute la terre. D'ailleurs, nous connaissons ce passage où le jour où Jésus est parti au ciel, lorsque les disciples étaient là en train de regarder en haut pour voir Jésus en train de partir, les anges ont dit, bon, maintenant vous pouvez détourner le regard, ce n'est plus la peine de rester planté là à regarder les nuages, mais sachez que ce Jésus que vous venez de voir partir, un jour il va revenir d'exactement la même manière. La Bible nous dit même qu'il va revenir à exactement le même lieu. Il posera ses pieds sur la terre et ce sera lui qui sera reconnu ce jour-là comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs, comme celui qui va régner éternellement sur toute la création. Et donc ces passages que nous avons lus ce matin nous disent que ce jour-là, lorsqu'il viendra établir le règne de Dieu sur la terre, à ce moment-là, toutes les nations lui seront données. Tout à l'heure, on a chanté que notre Dieu règne. L'auteur aux Hébreux nous dit, il règne, mais pour le moment, dans ce temps particulier de la grâce, en attendant le retour de Jésus pour établir ce royaume, pour l'instant, nous n'avons pas l'impression que Dieu règne. Quand on regarde le monde autour de nous, on n'a pas vraiment l'impression que ce soit le monde où Dieu règne, où tous, même comme on vient de lire, même les gouvernants, les puissants vont devoir lui obéir. On n'y est pas encore. Mais la Bible nous dit, vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout hors de contrôle. C'est juste un moment, en attendant le retour de Jésus en tant que roi des rois. Et à ce moment-là, toute la puissance de toutes les nations de la terre lui seront données. Ce qui veut dire également que ce jour-là, ce sera notre roi Jésus qui régnera aussi sur le Luxembourg. Alors le Luxembourg fait partie, certes, des pays qui ont souvent changé de gouvernant et de régime, par moment sous la puissance de l'Autriche, par moment sous la puissance des Français qui ont dit qu'ils venaient gentiment libérer le Luxembourg du joug des Autrichiens avant de s'installer comme maître, puis les Pays-Bas, puis les Allemands. Mais effectivement, un jour, le Luxembourg aussi sera sous le règne et la puissance de notre roi des rois Jésus, qui régnera sur toutes les nations de la terre. Alors vous savez sans doute que demain est une journée importante au Luxembourg. Fête nationale, qui veut dire donc anniversaire officiel du Grand-Duc. Mais cette année, tout particulièrement, c'est également la fête du jubilé d'argent du Grand-Duc Henri, donc les 25 ans de son règne. Mais accessoirement, non seulement ça va être la fête nationale où on fête les 25 ans du Grand-Duc Henri, mais ce sera également sa dernière fête nationale en tant que Grand-Duc, puisque donc il a déjà fait l'annonce que cet automne, il va céder le trône à son fils. Alors j'avoue que pour un Anglais, ça semble assez incompréhensible. Abandonner le trône après seulement 25 ans, c'est très peu. Personnellement, je suis tout juste en âge de me souvenir du jubilé d'argent de la reine Elisabeth. Et bon, après, j'ai connu également le jubilé de rubis, jubilé d'or, jubilé de diamant, même jubilé de platine en 2022 pour marquer les 70 ans de règne. Et en 2015, la reine Elisabeth avait dépassé la reine Victoria pour devenir la monarque britannique avec le plus long règne de l'histoire, donc 70 ans. C'est presque le règne le plus long de l'histoire, au moins connu mondialement. Le seul qui l'avait battu, c'était le roi français Louis XIV, qui avait régné un an et demi de plus. Donc, 71 ans de règne comme record. Donc, effectivement, abandonné après 25 ans, c'est très peu. Mais même si 71 ans de règne peut nous sembler impressionnant, bah, du point de vue de l'histoire, 71 ans, c'est peu. Ça va assez rapidement. Et rien que dans l'histoire des pays de l'Angleterre et de la France, 70 ou 71 ans, c'est juste un petit parenthèse dans l'histoire des pays. Si on regarde l'histoire française, Louis était déjà 14e à porter le nom de Louis quand il a régné 71 ans. Sans compter les Charles, les Henri, les Philippe, les François, etc., qui étaient venus avant lui et qui l'ont suivi. Après, il y a eu la Révolution et on est déjà à la 5e République en France. Donc, 70 ans de règne, c'est juste un tout petit moment dans l'histoire. Élisabeth, qui avait régné 70 ans sur l'Angleterre, était déjà la 62e monarque de l'Angleterre. Et maintenant, donc, il y a aussi son fils qui est là depuis quelques années. Et quand on regarde l'histoire au sens plus large, bah, à l'époque de Jésus, la France et l'Angleterre n'existaient même pas en tant que nation. Donc, on se rend compte, comme dit Moïse dans un des psaumes, que finalement, 70 ans, c'est assez peu d'un point de vue déjà de l'histoire de l'humanité, d'autant plus quand on prend ça d'une perspective éternelle. Même les grands de ce monde, finalement, sont peu de choses de point de vue éternel. Et leur règne, même leur nation, sont peu de choses d'un point de vue éternel. Justement, psaume 103, verset 15, nous dit « L'homme, donc l'être humain, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et les lieux qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » La Bible nous dit d'ailleurs que c'était une pensée fondamentale dans la foi de Moïse, que Moïse, qui avait grandi dans la maison du pharaon d'Égypte, plus grande puissance de l'époque, comme s'il avait grandi à la Maison Blanche de nos jours, la Bible nous dit que finalement, il a conclu que mieux valait se ranger du côté des esclaves du peuple de Dieu que de profiter de tout ce que sa position dans la famille royale égyptienne pouvait lui donner pendant les quelques années de son existence. Puisque finalement, il savait que si le royaume de Dieu existe, alors il avait tout intérêt de se ranger du côté de Dieu, puisque même l'homme le plus puissant du monde, ses jours sont comme l'herbe. Un jour, comme on a entendu dans ces témoignages ce matin, chaque être humain, aussi bien soit-il, va mourir. La Bible nous dit d'ailleurs de garder la bonne perspective sur notre vie, de rester humble, de ne pas se leurrer avec l'idée que nous sommes tellement importants pendant les quelques années de notre vie. Car, il dit, lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais si Moïse donc a fait ce choix, c'est parce que la bonté de l'Éternel, par contre, dure à jamais pour ceux qui le craignent, car l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Dans le Nouveau Testament, les les apôtres vont utiliser cette pensée pour nous encourager donc à vivre de manière à plaire à Dieu en nous disant finalement la vie est très courte. Par contre, l'éternité, c'est très long. Et donc, notre défi, c'est de vivre notre vie maintenant à la lumière de l'éternité qui nous attend. À la lumière du fait que Jésus va revenir un jour, qu'il va établir son règne et qu'il va revenir pour être juge de tout être humain qui n'ait jamais vécu. Ce jour-là, tous les grands, les puissants de toute l'histoire vont devoir rendre des comptes au roi Jésus-Christ de ce qu'ils auront fait de leur vie. Toutes les décisions qu'ils auront prises, tout ce qu'ils auront pu faire pour établir leur puissance, ils auront des comptes à rendre. Mais non seulement eux, chacun d'entre nous, on aura des comptes à rendre au Seigneur pour tout ce qu'on aura fait dans notre corps, nous dit la Bible. Et ce jour-là, le seul moyen de ne pas avoir à craindre ce moment, nous dit la Bible, c'est d'avoir mis notre foi en Jésus-Christ, croyant que tout ce que nous ayons pu faire qui est à l'encontre des voies de Dieu a été cloué avec le corps de Jésus sur la croix pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et donc être justifié, être justice de Dieu en Jésus-Christ pour donc ce jour-là être accueilli dans la présence du Seigneur pour régner avec lui, faisant partie de ce peuple des saints à qui sera donné avec lui le royaume. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu, dans sa grâce, a choisi de faire de nous ses enfants en Jésus-Christ, et si ses enfants, également ses héritiers, co-héritiers avec Jésus-Christ. La Bible nous dit que ce Fils de l'homme va revenir, le royaume lui sera remis, mais que ce royaume sera également remis au peuple des saints de l'Éternel. Mais donc ce jour où Jésus va revenir, il va être déclaré roi, ou plutôt reconnu comme roi, puisque la Bible nous dit que Dieu le Père l'a déjà proclamé, déclaré roi pour toujours. Déjà dans Luc chapitre 1 verset 33, avant la naissance de Jésus, il y avait eu cette révélation que cet enfant qui allait venir régnera sur la maison de Jacob éternellement et son royaume n'aura point de fin. Lorsque le roi Jésus viendra sur la terre, il n'y aura plus aucun intérêt à compter les jubilés parce que on en dépassera tellement que même les mathématiciens et les ordinateurs seraient plus capables de suivre le compte. Donc, son règne n'aura point de fin. Et dans Hébreux 1, verset 8, l'auteur souligne le fait que Dieu le Père a dit au Fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors ce matin, on ne va pas entrer dans tout ce que cela implique concernant le fait que Dieu le Père reconnaît Jésus aussi comme Dieu. Si on se lance dans toute cette analyse, toute cette discussion-là, je vais vous garder au moins aussi longtemps qu'Alain lors d'une de ses prédications. Mais le Père dit: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Et si Dieu, si Jésus est reconnu comme roi éternel, qui régnera éternellement, cela montre son importance, sa grandeur vis-à-vis de tous les grands de notre monde. Vous savez, dans le livre aux Hébreux, l'auteur utilise l'aspect éternel du sacerdoce de Jésus, le fait qu'il soit reconnu prêtre pour toujours, pour démontrer que du coup, il est forcément supérieur à tout autre prêtre, même au prêtre Aaron. Dans Hébreux chapitre 7, verset 21, il dit que Jésus est devenu sacrificateur avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Puisque Jésus a reçu, dit-il, un sacerdoce éternel, il est forcément supérieur à tous les autres prêtres qui n'étaient prêtres que pour quelques années sur cette terre. Sur le même principe donc, si Jésus est le roi éternel, qui a un règne éternel, il est forcément plus grand, plus important, supérieur à tout autre roi, à tout autre gouvernant qui ait vécu sur cette terre dans toute l'histoire de l'humanité. C'est ce qui est le fondement donc du fait que Jésus, lorsqu'il reviendra, il reviendra comme roi, mais non seulement roi, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Celui qui est même au-dessus d'eux. Peu importe à quel point ils se considèrent comme des personnages importants dans l'histoire, Jésus va être de loin supérieur de tous, puisque mis en place par déclaration de Dieu le Père. D'ailleurs, dans le psaume 2, c'est pour cela que la Bible nous dit que lorsque les grands de ce monde prennent la décision de vouloir exclure Dieu de leur société, le Père est assis dans les cieux et il rigole devant leur bêtise, puisqu'il dit, essayez donc, puisque la Bible dit, moi, j'ai décrété, j'ai déclaré Jésus comme mon Messie, comme mon roi, comme le Christ, qui va donc être roi des rois et seigneur des seigneurs, pour que donc tout genou soit obligé de se fléchir devant lui. Et donc, comme on a vu dans Daniel, comme on a pu voir dans les études bibliques, dans Ésaïe, Jésus va revenir établir son règne sur toute la terre. Ce jour-là, ce verset dans Hébreux deviendra caduc. Ce verset qui dit que pour l'instant, nous ne voyons pas Jésus glorifié, élevé, régnant, puisque ce jour-là, nous le verrons régner sur toute la terre, sur toute la création, lorsqu'il reviendra. Il n'y aura plus cette question de devoir marcher que par la foi. Nous marcherons à ce moment-là aussi par la vue, puisque nous serons dans la présence de ce roi éternel qui règne sur toute la terre. Et donc, ce jour-là, son règne n'aura plus de fin. Il aura pris tout le pouvoir sur tous les pouvoirs de la terre. Il sera devenu le roi de toutes les nations de toute l'histoire. Après, chacun va pouvoir se débrouiller selon l'époque où il a vécu sur terre pour dire... Soit il a pris le pouvoir sur le Luxembourg, sur les Pays-Bas, sur une partie du Reich allemand, sur une partie de la France, sur une partie de l'Empire autrichien. Chacun se débrouillera. La réalité, c'est que Jésus régnera ici comme sur toute la terre. Et donc, ce sera un règne sans fin, et d'ailleurs, je pense, on ne voudrait pas que son règne prenne fin. Il y a eu des occasions où les gens étaient contents lorsque le règne de quelqu'un prenne fin, mais ce jour-là, ce ne sera plus le cas, puisque on a lu dans Hébreux 1, verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Quel que soit votre rêve et votre désir politique, et heureusement Bruno n'est pas là aujourd'hui, peu importe, le règne de Jésus, ce sera la perfection. Le rêve de chacun réalisé sur la terre, lorsque Jésus règnera selon la justice, selon le droit, selon tout ce qui est parfait. Et donc, nous ferons partie, si on met notre confiance dans le Seigneur, si on persévère jusqu'au bout avec lui, nous ferons partie de ce peuple de saints qui habiteront ce royaume avec notre roi des rois. Donc, le règne de Jésus mérite d'être célébré, mérite nos louanges. On a pu chanter dans le premier chant ce matin que notre roi, notre Dieu règne. Et c'est quelque chose qui devrait nous réjouir. L'idée qu'il règne, l'idée qu'il règnera de manière visible sur toute la terre, c'est quelque chose qui devrait surtout être reconnu. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et Philippiens 2 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le jour où Jésus reviendra comme roi éternel, effectivement, tout genou sera obligé de fléchir devant lui et de le reconnaître comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais la Bible nous dit que nous, si nous avons la foi, nous voyons déjà cette réalité qui a été déclarée, qui a été mise en place, qui attend simplement le jour où le Père dit, c'est aujourd'hui que tu vas monter sur le trône. Le grand-duc, il y a quelques mois, a dit à son fils, tel jour au mois d'octobre, tu vas monter sur le trône. La Bible nous dit que Dieu le Père a dit à son fils, le jour viendra où tu vas être reconnu par toute la création comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais l'auteur aux Hébreux donc nous dit, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, même si pour l'instant, nous ne voyons pas que toute chose lui soit soumise. Nous y croyons parce que nous croyons dans la parole de celui qui l'a dit. Du coup, si j'y crois déjà, si je crois déjà que Dieu, dans sa grâce, m'a permis d'être transféré du monde actuel dans son royaume, alors moi aussi, je dois reconnaître son règne. Sinon, je suis quelque part menteur. Si je dis Jésus est roi des rois, Mais bon, pas de ma vie à moi. C'est moi le roi de ma vie à moi. C'est pour ça que c'est ma vie à moi. Si Jésus est réellement déclaré roi par le Père, alors nous devons déjà le reconnaître de manière pratique dans notre vie, en le permettant de régner sur nous. Justement, dimanche dernier, Alain nous a parlé de l'autorité du Seigneur, l'autorité de sa parole. Généralement, lorsqu'une loi est promulguée, le chef d'État donne son autorité là-dessus. Et si on y obéit, c'est par respect de cette autorité qui est au-dessus de nous. Et d'ailleurs, en tant que chrétien, la Bible nous dit que nous avons un devoir devant Dieu de reconnaître et de respecter cette autorité, si on est d'accord avec eux ou non. Je ne pense pas que les apôtres étaient particulièrement d'accord avec l'empereur Néron. Mais Pierre a dit, nous devons, en tant que chrétiens, nous soumettre à cette autorité qui a été placée au-dessus de nous par Dieu lui-même. Et donc c'est comme service à Dieu lui-même que nous reconnaissons cette autorité. Mais donc, si cette parole porte l'autorité, non pas d'un chef politique avec qui on est peut-être ou peut-être pas d'accord, mais avec le roi des rois, alors nous ne pouvons que fléchir le genou devant ce qu'il nous dit. Ce n'est pas discutable. On ne peut pas faire une manif contre ce que Dieu nous dit. On doit au contraire reconnaître déjà dans notre vie le règne de celui qui viendra sur la terre. Sinon, à quoi bon dire qu'on est en train d'attendre l'arrivée sur la terre du règne de Dieu si on ne veut pas de ce règne dans notre propre vie. Ça commence là, et c'est pour ça qu'après, on sera content de voir venir le roi des rois, sinon ça ne va pas être une tellement bonne nouvelle pour nous. Lorsque ce roi viendra mettre en place sur toute la terre les règles que nous ne voulons pas déjà traduire en réalité dans notre vie. Donc la Bible nous dit qu'il faut déjà le reconnaître maintenant, par la foi. Ça fait donc toute aussi partie d'être sauvé par la foi, de vivre par la foi. Par la foi, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Et puis donc, il y aura ce jour où il va revenir. Le jour où il va revenir, ce sera à ce moment-là trop tard pour changer d'attitude, changer de position. Soit on aura reconnu son règne de notre vivant aujourd'hui, comme dit la Bible, aujourd'hui est le jour du salut, soit il sera trop tard. La Bible nous encourage donc à reconnaître ce roi comme notre roi dans nos cœurs et dans nos vies, dans nos pensées et dans nos actes. Finalement, je n'ai pas trouvé meilleure conclusion que les paroles enseignées par Jésus, que d'ailleurs nous avons tous chanté ce matin, dans Matthieu 6, verset 13. « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles. » 21e, et puis toute l'éternité. C'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.